Bon, je voudrais d'abord vous présenter les regrets, les excuses de Ettore Scola qui, souffrant, n'a pas pu nous rejoindre et participer à ce dialogue, ce qui devait être, comme cela est annoncé
ça
dans
sera
le...
Ça sera un monologue.
Ça sera un monologue, oui. Ça sera un monologue et c'est un monologue un peu... redoutable dans la mesure où je n'avais pas évidemment préparé une communication, mais plutôt imaginé une série de, d'interrogations qui auraient permis, en français ou en italien, Scola parle également très bien le français, de réfléchir à ce thème des horizons que le cinéma italien nous propose de la Méditerranée. Comme donc, je répète, je vais aborder un certain nombre de questions, d'orientations, de problématiques autour de cette représentation de la Méditerranée, et évidemment, nous n'aurons pas le retour. Alors peut-être que je pourrais, si on fait des actes, lui demander d'apporter quelques commentaires au texte que j'aurai le soin de préparer. Pour faire en sorte que, d'une certaine manière, sa voix soit présente. Quand, en matière de cinéma, ce sont des sujets qu'on rencontre souvent, on s'interroge sur le problème de la représentation. Quelle représentation nous donne le cinéma d'une certaine entité géographique, en l'occurrence la Méditerranée? Parce qu'en fait, quand on parle des horizons méditerranéens du cinéma italien, il faudrait d'abord s'interroger sur les horizons méditerranéens de l'Italie. Et puis ensuite voir, à partir de cette interrogation, quels sont les horizons méditerranéens de l'Italie, quelle image le cinéma en a donné, quelle illustration en a-t-il proposé. Je tiens à préciser d'emblée que, en matière de cinéma, on peut emprunter deux voies, soit la voie du cinéma de fiction, soit la voie du cinéma documentaire. J'ai choisi, parce que ça s'imposait assez bien, surtout devant dialoguer avec un cinéaste qui n'a jamais fait de documentaire, ou en tout cas qui s'y est essayé de façon assez singulière avec son dernier film, d'ailleurs, Gente di Roma, qui est à mi-chemin entre la fiction et l'enquête documentaire. Mais enfin, quand même, le centre de gravité, l'axe principal de sa carrière, c'est le cinéma de fiction, et donc c'est le cinéma de fiction qui avait retenu mon attention en pensant que ce serait également la sienne. La question de la Méditerranée, ça a été déjà dit à de nombreuses reprises, pas tellement ce matin, mais plutôt hier, est une question centrale compte tenu de la géographie de l'Italie, compte tenu de son dessin, compte tenu de l'importance de ses côtes, compte tenu de ce que dans l'Antiquité, c'est une désignation qui a été souvent faite hier, il est question du Mare Nostrum, c'est-à-dire de cette possession de la Méditerranée par l'Italie. Et dans un film, puisque partons d'un exemple de film, dans un film de Federico Fellini, un de ses films les plus célèbres, qui est Amarcord, où il apparaît qu'effectivement Fellini est un homme d'une ville côtière, face à une Méditerranée un peu particulière. C'est pas la grande Méditerranée, c'est l'Adriatique. C'est quand même... Mais nous sommes quand même dans la Méditerranée, et dans ce film, sur la costiera, sur la promenade de Rimini, je rappelle que Rimini, en fait, est un petit peu à l'intérieur des terres. Il faut faire quelques kilomètres pour arriver sur la plage et sur le mole du port de Rimini. On voit à l'évidence, un ancien combattant de la guerre de 14-18, qui est infirme, qui est dans une chaise à roulettes, et qui, face à la mer, qui est cette mer adriatique, a cette phrase fameuse que Fellini lui met dans la bouche, « Se per gli altri il Mediterraneo è una strada, per noi italiani è la vita. » Donc, cette Méditerranée, qui est en quelque sorte consubstantielle à l'identité italienne et qui donnera également lieu à une autre phrase. Mussolini avait le sens de la formule, alors je ne sais pas si c'est lui qui les inventait toutes ou s'il avait des conseillers qui les lui préparaient. En tout cas, en regardant, en consultant une entrée sur Internet, il y a une liste absolument infinie de ces phrases que Mussolini prononçait et qui ensuite étaient volontiers reproduites sur non seulement des monuments, mais même sur de simples maisons. Et d'ailleurs, à la campagne, il n'est pas encore totalement impossible de découvrir de vieilles masures sur lesquelles, un peu effacées, il y a encore de ces phrases lapidaires de Mussolini. Alors, une autre de ces phrases de Mussolini sur la mer, « Tutta l'Italia è sul mare, il nostro destino è sul mare ». Donc c'était effectivement une façon d'insister et cela permettra de développer un point sur lequel on aurait pu discuter longuement, qui est le problème du colonialisme italien et de l'image qu'en a donné le cinéma. Alors avant d'aborder rapidement cette question du colonialisme, je voudrais revenir d'abord, parce que ça a été quelque chose qui a nourri le cinéma italien par une quantité de sujets, les sujets empruntés à l'Antiquité, et cela dès la période du cinéma muet, puisque c'est même un des grands filons de la production italienne de la période muette que de porter à l'écran des sujets empruntés à l'Antiquité. Et quand on parle de l'Antiquité, bien souvent, la Méditerranée est au cœur des récits. Et pour ne citer qu'un titre, un des plus fameux de l'histoire du cinéma italien, c'est un film de 1914, qui s'appelle Cabiria, qui est un film qui évoque l'enlèvement de la fille d'un patricien romain vivant en Sicile, qui est enlevée par des pirates carthaginois et qui manque de périr lors d'un sacrifice au dieu Moloch, et qui est sauvée par l'intervention du bon géant, du gigante buono, Maciste. Et le film, à côté de cet aspect romanesque et finalement prétend à sourire, le film est quand même une exaltation de la conquête de Carthage et donc de l'installation des Romains sur la côte méridionale de la Méditerranée, qui sera le point de départ de cet empire romain et qui finira par non seulement s'étendre au-delà, mais en tout cas de constituer une entité continue tout autour de la Méditerranée. Et ce mythe antique de l'Empire romain va évidemment être un des éléments qui sera repris par le fascisme, qui voudra d'ailleurs retrouver cette continuité en quelque sorte. Quand vous allez près du Colisée ici à Rome, vous avez sur un mur qui est en contrebas dans la zone des forums, où l'on a une représentation cartographique de l'Empire romain. Et nous avons quatre cartes successives qui nous montrent l'extension de cet empire, ce qu'il était au début, avec timide, puis progressivement. Alors on a l'impression d'une espèce de tache noire qui progressivement devient de plus en plus vaste et couvre l'ensemble de la Méditerranée. Aujourd'hui, une cinquième carte a disparu, mais elle figurait à côté des quatre précédentes, qui était l'empire fasciste. Et on en voit encore, d'ailleurs, quand on regarde bien, on voit encore à peu près là où se placer. Il y a des photos, heureusement, qui ont permis de conserver la mémoire de cet empire fasciste, qui était donc un des éléments de la propagande, où on montrait par cette série de cartes l'absolue continuité entre l'empire romain et l'empire fasciste. Cet empire fasciste, cet empire colonial fasciste, il s'était constitué en deux étapes. Pour l'essentiel en tout cas, la guerre italo-turque de 1911-1912, qui aboutit à la conquête de la Libye, et puis la guerre de 1935-36, et qui aboutit à la conquête de l'Éthiopie. Alors évidemment, le cinéma a montré ça. Il l'a montré par des ressources documentaires. Il y a beaucoup, l'Italie des années 30 disposait d'une institution d'une très grande capacité d'intervention, qui était l'Istituto Luce, qui a assuré la documentation à la fois photographique et cinématographique de ces entreprises coloniales. Aujourd'hui encore, le fonds de l'Institut Luce est un fonds extraordinaire, presque totalement numérisé, ce qui fait qu'on peut le consulter avec une très grande facilité en allant à Cinecittà, puisque les archives de l'Institut Luce sont dans l'emprise des studios de Cinecittà. Donc, on a un certain nombre de films, notamment des films romanesques, qui évoquent la conquête coloniale, et j'en citerai, par exemple, en 1926, un film de Mario Camerini qui s'appelle Machiste contro Checco, ce qui veut donc dire que le bon machiste a été enrôlé en quelque sorte pour participer. Je vous rappelle qu'en 1916, il avait également participé à la guerre de 1915-1918 avec un film qui s'appelle Machiste Alpino, machiste chasseur alpin en français, Machiste Alpino, et que donc on le voit en 1926, Machiste contro lo Checco, intervenir lui aussi dans ses relations entre l'Italie et la Libye, qui est en réalité à ce moment-là une province de l'Empire turc, mais qui va devenir possession italienne. En 1928, le film peut-être le plus significatif de cette conquête de l'Éthiopie, c'est un film de toujours du même Mario Camerini, qui, à l'inverse de Machiste et qui comportait des éléments humoristiques, là est un film profondément sérieux, qui s'appelle Kif Tebi, et qui montre comment le film met l'accent sur l'existence d'une classe aisée en Libye qui aspire à la conquête italienne, qui aspire à la modernité et qui aspire finalement à ce que la Libye entre sous le contrôle politique, ou en tout cas sous l'influence idéologique de l'Occident, quoi, comme forme de transformation de la société traditionnelle. Et le film, de ce point de vue, est historiquement un document extraordinaire, au travers, bien entendu, d'une histoire très romanesque, qui introduit, comme souvent dans le cinéma, également une dimension d'histoire amoureuse. Quant à la conquête de l'Éthiopie, conquête qui se termine donc en 1936 par la prise d'Addis Abeba et qui va permettre au roi et au duce d'y gagner un titre nouveau, hein, le roi devenant empereur d'Éthiopie et le duce devenant fondateur de l'Empire. Ce sont les deux titres que désormais ils vont porter. Empereur d'Éthiopie, fondateur de l'Empire. Donc le film qui est l'exaltation de cette conquête dans une perspective romanesque, c'est le film de Goffredo Alessandrini, qui est un film de 1938, donc tourné tout de suite après la fin de la guerre, qui s'appelle Luciano Serra Pilota, qui est l'histoire d'un aviateur de la guerre de 14-18. Il y a toute une série d'éléments. Ce film est un résumé de toute une série de problématiques de l'Italie de l'époque. D'abord, le protagoniste, Luciano Serra, pilota, est interprété peut-être par l'acteur le plus emblématique de la période, qui est Amedeo Nazzari, qui portait beau, qui avait une allure d'acteur hollywoodien, vaguement à la Clark Gable, et qui est vecteur de cette Italie conquérante. C'est un ancien aviateur de la guerre de 14-18. Les revers de l'après-guerre, et là il y a toujours l'insistance fasciste de montrer que dans le fond les anciens combattants n'ont pas été traités comme on aurait dû les traiter, il est amené à émigrer, il émigre en Argentine, où il continue son métier de pilote en donnant des baptêmes de l'air. Il gagne sa vie avec un petit avion et en proposant des baptêmes de l'air moyennant finances. Et en 1935, quand il apprend que l'Italie entre en guerre, il a le sentiment qu'on a besoin de lui. Et alors, au travers d'une aventure pleine d'embûches, il va même disparaître dans une tempête, mais en réalité il sera recueilli par un navire, va parvenir à rejoindre les troupes italiennes qui sont en Éthiopie. Et là, comme il n'a pas la possibilité, puis il est trop âgé, donc il s'engage simplement comme fantassin, Et c'est à l'occasion d'une attaque de l'aviation italienne où un des avions est, où le pilote est blessé. L'avion n'est pas endommagé, simplement le pilote est blessé, le pilote est obligé de se poser et Luciano Serra, qui est un simple fantassin, monte dans l'avion, prend les commandes et réussit à ramener l'avion à la base arrière. Et alors, comble du romanesque, évidemment, le pilote qui a été blessé n'est autre que son fils. On peut imaginer à quel degré d'émotion cela peut conduire. Luciano, d'ailleurs, une fois qu'il est parvenu à ramener l'avion sur l'aéroport ou sur les bases arrières, a été blessé et meurt. Et ça se termine par une magnifique cérémonie où il est décoré et la décoration est donnée à son fils. Le film, cela dit, il porte à rire parce que en le racontant, on est évidemment entraîné sur cette mauvaise pente. Le film, en réalité, est très sérieux et surtout très touchant. C'est-à-dire, le film fonctionne. Et Goffredo Alessandrini était certainement, avec Blasetti et Camerini, des fois on les appelait Abici, était certainement un des meilleurs cinéastes des années 30 dans un cinéma qui, finalement, est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense généralement. Bon, alors on pourrait continuer à survoler ces éléments qui articulent en quelque sorte ce rapport entre l'Italie et l'Empire, avec cette recherche de la quarta sponda, et puis au-delà, dans cette volonté d'imaginer un empire colonial italien qui, dans l'Afrique orientale, deviendrait établirait une espèce d'équilibre avec l'Afrique française et avec l'Afrique anglaise. Dans les rêves les plus ambitieux de Mussolini, il y avait cette idée d'une sorte de partage de l'Afrique en trois parties, et à côté de l'Afrique française, de l'Afrique anglaise, il y aurait une Afrique italienne qui finirait par englober l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte entrerait elle-même dans le giron c'est le Soudan, jusqu'aux limites du Kenya, toute cette région de l'Afrique orientale deviendrait l'empire colonial italien. Évidemment, l'effondrement est total avec la guerre de la Seconde Guerre mondiale, ce rêve impérial s'effondre, et le cinéma italien a, dans la majorité des cas, non pas présenter l'aspect héroïque de cette seconde guerre mondiale et du rôle de l'Italie dans cette seconde guerre mondiale, en a plutôt représenté les aspects humoristiques, les aspects d'humanité. À l'évidence, les Italiens tels qu'on les voit dans le cinéma ne sont pas de bons soldats. Ils ont d'autres préoccupations en tête. Il y a peut-être l'exception d'un film de Enzo Monteleone qui s'appelle Elle à la main, qui est un film de 2002, qui évoque de manière extrêmement sérieuse les conflits entre Anglais et Italiens à Elle à la main. Mais souvent, le côté est plutôt humoristique. Je pense en particulier à un film très connu puisqu'il a obtenu l'Oscar. C'est le film de 1991, Mediterraneo, de Gabriele Salvatore, qui raconte justement l'arrivée d'un détachement italien dans une île grecque où ces soldats finalement vont quasiment déposer les armes pour vivre et pour jouir, pourrait-on dire, de leur installation dans cette île dans laquelle ils sont totalement coupés du monde puisqu'ils ignorent totalement leur poste de radio et seront dès le début de leur occupation de l'île, et finalement ils sont totalement dans l'absolue méconnaissance de ce qu'est le devenir de la guerre, et finalement vivent une espèce de non-guerre. Bon. Le sujet avait été envisagé dès les années 50 dans un sujet écrit par Guido Aristarco, l'Armata Saguapo, qui avait fait scandale et qui avait conduit Aristarco en prison, puisque pour défaitisme, pour représentation d'une vision non héroïque de la guerre de la part de l'armée italienne. Donc, et puis pour clore sur ce paragraphe, d'autres représentations également non héroïques de la guerre, on les trouve dans les deux adaptations d'un livre de Mario Tobino, Il déserto della Libia, qui est un livre admirable, eh bien, les deux adaptations ont été faites par les maîtres de la comédie italienne, puisqu'il y a une adaptation de Dino Risi, et une adaptation de Mario Monicelli. Donc dans les deux cas, on aurait pu, à partir du désert de la Libye, tirer une œuvre dramatique. Au contraire, on en tire des œuvres humoristiques. Une, c'est Scemo di guerra, avec Coluche. Donc on voit qu'effectivement, c'est assez curieux. L'autre, un peu plus sérieux, c'est d'ailleurs le dernier film de Mario Monicelli, un film assez émouvant par certains aspects, notamment le côté œuvre ultime de Monicelli, c'est Les Rose del Deserto, qui évoque de façon peut-être toujours avec une forte dimension humoristique, mais également avec une dimension aussi qui insiste sur le caractère dramatique de cette présence italienne en Afrique du Nord. Le temps passe, et il faudrait évidemment évoquer ensuite la reconstruction de l'Italie dans l'après-guerre. La représentation de la Méditerranée, et là évidemment on ne peut penser qu'au film de Visconti, La Terra Trema, qui évoque la condition des pêcheurs sur les côtes siciliennes, près de Catane, à Citrezza, et souligner aussi qu'il y a dans cette Italie qui se reconstitue, qui se reconstruit avec beaucoup de difficultés au lendemain de la guerre, avant que n'arrive peut-être la dimension un peu artificielle du boom économique, il y a ce sentiment d'un pays qui souffre d'injustice, et peut-être par là pourrait aussi se comprendre l'énorme succès des péplums dans les années 50 et jusqu'au début des années 60, avant que ce genre soit balayé par le western. À mes yeux, épisode assez peu glorieux de l'histoire du cinéma italien, à part quelques exceptions comme Sergio Leone, bien entendu, mais non. Bon, tandis que le péplum, ça correspondait à une représentation de l'Antiquité qui était une représentation de fantaisie, mais qui en tout cas était portée par une idéologie forte de la lutte contre l'injustice. La plus grande partie des, pour ne pas dire pratiquement tous les scénarios, reposent sur un tyran et un justicier. Et ce justicier, il est porteur de justice et avant tout de justice sociale. Et là, on sent toute la difficulté de cette Italie écartelée entre le Nord et le Sud. Et d'une certaine manière, quand on pense au western, et si on veut vraiment lui trouver un quelconque intérêt, on peut penser qu'il y a eu dans le western italien un filon qui mettait en scène les Mexicains, les peones mexicains. Et alors là, ces peones, c'était les paysans italiens. C'était une façon indirecte de parler de la paysannerie et du sous-développement méridional avec le Nord et le Sud, c'était les États-Unis et le Mexique, qu'il fallait entendre par l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Enfin, j'en terminerai, parce qu'effectivement mon temps est compté, j'en terminerai par un sujet qui, lui, et là-dessus j'aurais vraiment entendu, parce que c'est peut-être l'aspect le plus contemporain sur lequel Scola aurait pu intervenir certainement avec le plus de remarques à faire, sur le thème de l'émigration-immigration. La représentation par le cinéma italien de l'émigration italienne vers l'Europe, mais là on s'éloigne un peu des horizons méditerranéens, mais aussi vers les Amériques, vers l'Amérique du Sud, l'Argentine bien sûr, et l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Québec d'ailleurs en l'occurrence, très souvent, et évoquer aussi l'immigration, c'est-à-dire ce phénomène récent qui alimente régulièrement la chronique italienne, avec l'arrivée de ces populations de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire, qui arrivent dans les îles au sud dans les petites îles au sud de la Sicile. Et j'évoquerai la figure d'un cinéaste qui, d'une certaine façon, a réalisé les deux œuvres récentes et emblématiques de ces deux problématiques. Il s'agit d'Emmanuel Crialese, qui n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur et qui, moi, me semble une des figures les plus intéressantes du cinéma italien contemporain. Crialese a tourné deux films, quatre même, il y en avait deux antérieurs, en 2006, Nuovo Mondo, et en 2011, Terraferma. En 2006, Nuovo Mondo est la description de familles pauvres siciliennes qui décident d'émigrer aux États-Unis. Et le film, en quelque sorte, en deux parties. La première partie évoque les circonstances qui conduisent toute une famille à vendre tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire, à vrai dire, pas grand-chose, juste de quoi payer le transport, qui embarquent à Palerme et qui vont débarquer, non pas directement à New York, mais à Ellis Island. Et là, peut-être la partie la plus forte du film, c'est les conditions d'accueil de ces Italiens à Ellis Island, accueil par certains aspects terrifiants, et qui conduit même d'ailleurs les autorités américaines à renvoyer en Italie les gens qu'ils estiment, notamment une vieille femme, qu'ils estiment ne pas apporter à cette nation le sang neuf dont elle a besoin, et elle est donc renvoyée en Italie. Et l'autre est peut-être encore plus dramatique, encore plus crucial et encore plus lié à une actualité récente, c'est Terra Ferme. Terra Ferme se passe non pas le premier, beaucoup de films ont évoqué Lampedusa. Terra Ferme ne se passe pas à Lampedusa, mais à Linosa, une petite île dans le même archipel, où on voit cohabiter, et là encore ça renvoie à des images dont certains d'entre nous les ont encore en mémoire, c'est-à-dire de plages, où d'un côté vous avez des gens qui continuent à profiter des plaisirs de la plage, et sur un des côtés de la plage, il y a des cadavres. Il y a des cadavres qui ont été rejetés par la mer, qui sont couverts d'un drap, et les gens continuent à jouer, tandis que à quelques, même pas à quelques dizaines de mètres, à quelques mètres d'eux, couverts par un drap, il y a ces cadavres. Et le film de Crialese, Nuovo Mondo, Terra Ferma, met l'accent en décrivant, dans le fond, l'histoire de deux frères, l'un qui essaie de venir en aide à ces Noirs qui se réfugient dans l'île, qui débarquent clandestinement, et notamment ils accueillent une jeune femme, qui est enceinte, et qui va d'ailleurs accoucher peu de temps après avoir été accueillie. Et l'autre frère, au contraire, qui a transformé la vieille barque de pêche en une barque sur laquelle il charge les touristes, il les amène au large, afin que ceux-ci puissent se baigner au large. Et c'est d'ailleurs l'éblouissante affiche du film, où l'on voyait cette barque avec les touristes qui plongent de part et d'autre de cette barque. C'est une scène qu'il y a dans le film, mais qui a une valeur figurative dans l'affiche, qui est tout à fait étonnante. Donc, dans le fond, si on en reste là, il n'y a pas de doute qu'on peut aller chercher dans le cinéma italien, et je répète, en restant dans le domaine du cinéma de fiction, il y aurait une autre enquête à faire dans le domaine du cinéma documentaire, dans le domaine du cinéma de fiction, il y a eu au cours des décennies, de la part du cinéma italien, une très grande capacité à rendre compte de ce qu'était cette présence de l'Italie par rapport à la Méditerranée. Cette Méditerranée qui baigne non seulement l'Italie péninsulaire, mais peut-être encore plus l'Italie insulaire. Merci.
Merci bien, M. Jean-Gilles.